podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Bienvenue sur ce nouveau podcast de Frontières des séries. La Servante Écarlate, The Handmaid's Tale, est une série américaine diffusée depuis avril 2017 sur la plateforme de vidéo à la demande Hulu. Créée par Bruce Miller, elle est une adaptation du roman de Margaret Atwood, publié en 1985. La saison 1, composée de 10 épisodes, a été diffusée en France sur OCS Max et en Belgique sur Proximus TV. La série a beaucoup fait parler d'elle lors de sa sortie, notamment à cause de l'impact de son message politique qui résonnait avec l'accès au pouvoir de Donald Trump. Elle s'est également fait remarquer pour la qualité de ses interprètes. En haut de l'affiche, on y retrouve Elizabeth Moss, récemment primée au Golden Globe pour ce rôle. L'actrice fait pour l'instant preuve d'un parcours sans faute dans le monde des séries. Jugée plus tôt, elle est apparue ainsi dans Mad Men, À la Maison Blanche ou encore Top of the Lake, beau pédigré. Elle est accompagnée de Joseph Fiennes, Shakespeare in Love, Yvonne Strahovski, aperçu dans Chuck et Dexter, Samira Wiley, qui avait marqué les esprits en tant que détenue de prison tuée par un gardien dans Orange is the New Black. Louée par la critique et déjà multi-récompensée, la série viendra hanter nos esprits pour une saison 2 très attendue, une saison que son créateur Bruce Miller annonce comme éprouvante à regarder. En même temps, la première saison est loin d'être une partie de plaisir. C'est Nathanaël Picasse qui a tenté une plongée dans cet univers quasi post-apocalyptique. Nathanaël, bonjour.
Bonjour.
Pour nous accompagner aujourd'hui, Sophie Sourdiocourt, bonjour.
Bonjour.
Alors Nat, beaucoup de commentateurs ont dit que La Servante Écarlate était une série qu'on avait le devoir de regarder. Pourquoi ?
Il est certain que La Servante Écarlate porte un message fort à l'attention de tout un chacun, puisque la série offre sa version d'un futur très proche des États-Unis, totalement cauchemardesque, c'est le moins qu'on puisse dire. On appelle ça une dystopie, qu'on pourrait opposer à utopie, pour ceux qui ne sauraient pas l'origine de ce mot. Autrement dit, c'est une fiction qui dépeint une société imaginaire organisée d'une telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, tous les membres de cette société sont dans une sorte de souffrance totale. Ils ont l'air d'être condamnés à vivre dans un monde totalitaire dans lequel la notion même de plaisir semble avoir disparu. Et ça, c'est vraiment très particulier quand on regarde cette série, c'est qu'il y a aucune notion de plaisir, mais même pour le téléspectateur. C'est pas une série qui est plaisante à regarder, même si elle est nécessaire. Et là où le message de la série est fort, c'est que ce monde qui nous semble étrangement proche du nôtre, on sent notamment avec l'arrivée de Donald Trump effectivement, qu'il faudrait pas grand chose pour que tout bascule aussi dans cette idéologie un peu nauséabonde et que quelque chose prenne le pouvoir et change un petit peu notre façon de construire notre société. Alors je vous explique le contexte de la série pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors on est donc aux États-Unis, au temps présent ou un futur très très proche en tout cas, tout se passe relativement bien sauf que la plupart des femmes ne savent plus tomber enceinte. Bien sûr, la démographie est en chute libre, les ressources énergétiques de la planète s'effondrent aussi parallèlement. Bref, la société est au bord du chaos et même si la majorité de la population tente de vivre une vie plus ou moins digne malgré les circonstances, les choses changent en haut lieu puisqu'une secte fondamentaliste appelée les Fils de Jacob, on les appelle aussi Gilead, cette secte s'organise et prend d'assaut la Maison Blanche, fait tomber les institutions américaines et suite à ce coup d'État, d'ailleurs il faut noter que la plupart de la population ne réagit pas beaucoup à ce coup d'État. Ils sont tous en fait tellement pris dans leur quotidien que finalement ils réagissent pas à ce qui est en train de se passer autour d'eux. Et en fait quand ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose, c'est trop tard finalement. Suite à ce coup d'État, la secte réorganise complètement la société et leur première cible, ce sont les femmes. Celles-ci se voient privées de tous leurs droits. Elles n'ont plus le droit de travailler, ni de voter, pas avoir de compte en banque non plus. Elles sont asservies au bon vouloir des hommes. Et alors les femmes sont rangées en catégories suivant leur aptitude. On aura d'un côté les épouses tout simplement. On a les Martha qui sont des femmes de ménage, un peu des bonnes à tout faire, qui sont là pour faire la cuisine à l'ancienne. Voilà, elles sont toujours en gris. Et on a les servantes qui sont en rouge. En l'occurrence, cette dernière catégorie est réservée uniquement aux femmes qui ont encore la capacité d'enfanter. Et cette place est loin d'être la plus enviable puisqu'elles sont réduites à leur utérus, finalement. Ces femmes sont ainsi données à des familles de dignitaires et chaque mois, elles sont littéralement violées par le chef de maison pour qu'elles puissent lui donner un héritier. Le viol est carrément institutionnalisé et ritualisé en cérémonie. On appelle ça la cérémonie dans la série, puisque la femme doit ainsi se coucher dans le lit conjugal. Elle est retenue par les poignets par l'épouse qui est là, donc on est dans un petit ménage à trois très sympa, tandis que monsieur fait son affaire. Alors c'est des scènes qui sont absolument révoltantes à regarder, évidemment. La mise en scène, en plus de la série, n'aide pas non plus, puisqu'elle aspire la moindre once de sensualité ou d'éventuelle excitation que ce ménage à trois pourrait éventuellement provoquer. On est loin des scènes d'orgie de Sense8, on est bien d'accord. La servante doit ainsi attendre après le verdict chaque mois pour voir si l'insémination, puisque finalement c'est ça, a réussi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un premier morceau qui est justement un extrait de cette fameuse cérémonie. Donc si vous entendez des petits râles d'excitation, c'est donc monsieur qui est en train de faire son affaire.
D'habitude. Ah, les hommes. La coutume veut que le commandant frappe à la porte. Ce soir, cette pièce appartient à son épouse.
Entrez.
C'est un petit rien, mais dans cette maison, les petits riens veulent tout dire.
Bonsoir. Ma chère. Commençons, je vous prie. Excusez-moi. Quand Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et dit à son époux : Donne-moi un enfant, ou je mourrai. Elle reprit : Voici ma servante, Bila. Va vers elle. Et qu'elle enfante sur mes genoux. Car par elle, j'aurai moi aussi un enfant. Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour accomplir son devoir d'épouse. Et Jacob s'unit à celle-ci.
vous êtes sourde. C'est... Il est conseillé de rester allongé pour augmenter les chances de conception après l'acte. Je vous ai dit de sortir.
Dans cet extrait, quelque chose de très, très présent dans la série, sont les sons, la lumière est très brute aussi, et les sons dans cet extrait, on entend chaque frôlement, ils ont beaucoup travaillé là-dessus.
Oui, clairement, ils ont vraiment travaillé sur les sons qui sont amplifiés. Chaque son est vraiment très amplifié, le moindre bruissement de tissu, les pas, il y a beaucoup de silence dans la série, et même le silence a un son, en fait. On l'entend presque grésiller, le silence, qui rend l'écoute, en fait, de la série vraiment, la vision et l'écoute de la série très compliquée, en tout cas très difficile, étouffante, quelque part. C'est silencieux et en même temps assourdissant en même temps. C'est très, très particulier. Il y a quelques irruptions de quelques morceaux de musique. On l'entend ici dans l'extrait, notamment, plutôt un extrait un peu plus de musique classique. Il y a de temps en temps des morceaux un petit peu plus rock qui font irruption, des morceaux plus d'actualité qui tranchent avec le reste. C'est les seuls moments où on a des petits bols d'air frais, et c'est les moments où l'héroïne en fait semble reprendre confiance en elle, ou en tout cas avoir une petite once d'espoir sur ce qui est en train de se passer. Et en général d'ailleurs, c'est vite cassé par la suite. C'est très compliqué, on a quelques petits moments de respiration.
On imagine bien qu'on est ici, tu l'as expliqué, dans une société totalitaire. Mais est-ce qu'on explique dans la série pourquoi est-ce que, dans le cas qui les occupe, ils n'ont pas accès à la fécondation assistée plutôt que cette scène de viol épouvantable?
Oui, c'est vrai qu'on se pose la question parce qu'en plus de temps en temps...
C'est le côté religieux.
Alors il y a ça parce qu'on essaie de justifier en fait finalement le fait que les femmes qui ont encore la possibilité d'enfanter n'ont plus le choix quelque part. Elles ont une sorte de responsabilité morale pour le bien de la civilisation humaine. Et donc quelque part, ça a une manière de justifier ça. Et donc ils ont effectivement institutionnalisé et cérémoniser ce moment-là en prenant en fait et on l'entend dans l'extrait, un extrait de la Bible en fait, qui c'est pour ça qu'il s'appelle Les Fils de Jacob. C'est une histoire avec effectivement le fait que dans la Bible il y avait une femme qui n'arrivait pas à enfanter et que on l'a dirigé Jacob vers la servante en fait, et on explique que c'est comme ça que ça doit se faire quelque part, et donc c'est une manière de justifier effectivement ce viol. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques scènes comme ça qui se passent dans des cliniques et qui sont d'ailleurs très froides. La clinique est ultra blanche et qui tranche d'ailleurs avec le reste de l'image, qui est souvent un peu jaunasse, délavée, un peu cracra comme ça. Mais effectivement, c'est vrai qu'on se pose la question au moment où on se dit, mais au pire, si on fait ça, autant les faire inséminer artificiellement, mais même ça, on ne le fait pas. La série nous fait suivre le quotidien de June, ou en fait de Fred, puisque les servantes sont même dépouillées de leur nom. Elles sont renommées selon le chef de famille auquel elles appartiennent. Et donc aussi, à partir du moment où elles ont donné un fils à cette famille, elles sont placées dans une autre famille et donc elles changent de nom. Pour éviter l'attachement, évidemment, et le fait qu'elles ne soient plus en contact avec l'enfant qu'elles viennent de donner. Dans le cas de June, c'est une femme d'une trentaine d'années qui avait, avant les événements, un mari et une fille, avant que les choses tournent mal. Elle avait tenté, évidemment, de fuir au Canada avec sa petite famille, et c'est comme ça que commence la série. D'ailleurs, c'est la tentative de fuite, mais elle se fait rattraper par une milice qui semble d'ailleurs avoir éliminé son mari, et le sort de sa petite fille lui est totalement inconnu. On aura plus d'informations vers la fin de la saison sur ce qu'est devenue sa petite fille. Elle est formée ensuite dans une espèce d'institut dirigé de main de fer par tante Lydia, qui est une espèce de bigote aussi sèche qu'illuminée, qui va lui apprendre à devenir une bonne servante, car évidemment la secte au pouvoir tente de persuader ces femmes de ces places privilégiées qu'elles ont finalement, que Dieu a bien voulu leur accorder. Il faut dire que les méthodes d'enseignement sont plutôt plutôt extrême, un petit coup de matraque électrique ou une énucléation pour les filles qui se montreraient un petit peu récalcitrantes. On a connu des pédagogies un petit peu plus douces, évidemment. La jeune June est ensuite placée dans la famille du commandant Waterford, un haut placé dans la nouvelle structure dirigeante. L'épouse du commandant ne voit pas ça d'un très bon œil, évidemment, puisqu'elle prévient tout de suite June qu'elle a intérêt à se tenir à carreau sous peine de vivre un véritable enfer. Faut dire que June est là en remplacement d'une autre servante qui s'est suicidée. Évidemment, c'est une situation aussi qui est particulière de faire venir une femme que monsieur doit sauter tous les mois. Ça a quoi de provoquer aussi une jalousie, évidemment, entrant auprès du couple, puisque celle-ci doit voir, assister chaque mois son mari dans ses relations sexuelles avec une autre femme et la voir ensuite porter l'enfant qu'elle ne pourra jamais lui donner. Le loup est dans la bergerie et évidemment, c'est difficile finalement à vivre pour tout le monde cette situation. À cette situation cauchemardesque pour June s'ajoute le fait qu'elle ne peut tisser de relations quasiment avec personne, puisque évidemment la société imaginée par les fils de Jacob vise à limiter tout rassemblement, tout attachement, toute relation. Chaque maison, famille est ainsi susceptible d'être surveillée par un œil, une sorte d'espion au sol du pouvoir qui peut rapporter tout comportement suspect. Tandis qu'en plus, les servantes voient leur sortie dehors très limitée, au strict nécessaire, c'est-à-dire aller faire les courses. Et quand elles sortent, c'est toujours en duo avec une autre servante, avec lesquelles elles doivent échanger des banalités. Tiens, il fait beau aujourd'hui. Et puis après, les phrases d'usage, sous son œil, des phrases religieuses.
Sans compter que parfois, les violences physiques sont aussi présentes au sein de la maison, ou pas?
Disons que si elles n'obéissent pas, effectivement, tout à fait, à l'épouse ou au monsieur, pas spécialement frappées, mais elles peuvent être enfermées pendant 15 jours dans leur chambre, par exemple. C'est le cas de June qui, à un moment, a fait un truc qui n'a pas plu à la maîtresse de maison et donc elle se retrouve enfermée dans une mini-chambre. Elle devient carrément folle à ce moment-là. Donc, non, c'est pas très, très, très joyeux. Donc, elle arrive quelque part à supplier pour qu'on lui permette au moins de faire ses petites sorties qui, même si elles ne sont pas très joyeuses, lui permettent un petit peu de respirer, évidemment. Surtout qu'en plus, June ne sait absolument pas à qui se fier. Tout le monde est suspect. Et la pauvre, en plus, verra systématiquement le moindre début d'amitié coupé dans son élan. Tout au plus, elle peut compter sur l'appui indéfectible de Moira. C'est une amie lesbienne qu'elle avait avant, dont elle croise encore la route sporadiquement dans son épopée. Et d'ailleurs, cette Moira doit évidemment cacher ses préférences sexuelles, car en plus, l'homosexualité est passible de la peine de mort, évidemment, puisque le côté religieux a pris le dessus. Elle vit déjà depuis 2 ans dans ce cauchemar vivant, mais June tient bon et résiste pour ne pas être brisée mentalement, en espérant une délivrance qui devrait venir de l'extérieur. Enfin, en tout cas, elle espère, puisqu'en fait, cette société totalitaire n'existe qu'aux États-Unis. Elle a pris le pouvoir que là. Et June, bien que totalement coupée du monde extérieur, puisqu'il n'y a plus de médias, évidemment, il n'y a plus de téléphone, on vit un petit peu à l'ancienne. Hein, on a l'impression de revenir un peu au début du XXe siècle, enfin c'est...
Et encore. J'irais plus loin, j'irais jusqu'à un totalitarisme religieux de l'Inquisition, où je trouve qu'on est plus dans cette vision-là, comme ça, d'un état religieux tout-puissant, appliquant uniquement des règles de vie arbitraires et souvent basées sur les écrits, mais détournées, évidemment, comme le font tous les systèmes totalitaires.
Il y a un côté Daesh aussi, hein, qui ressort évidemment très fort et qui fait très très écho, évidemment, actuellement.
Tout fait écho dans cette série, oui. Je trouve, à notre situation, autant le fait de ne rien faire par rapport à une situation qui se dégrade, à l'environnement, parce que les problèmes de fertilité sont dus
à la pollution,
et... aux dégâts sur l'environnement. Tout fait écho, aussi bien au niveau de la condition de la femme, enfin vraiment, je trouve que
c'est une série qui est vraiment dans l'air du temps, quoi. Ouais. C'est très impressionnant, on a vraiment capté les problèmes du temps, et alors que elle est basée quand même sur un roman de 1985, donc elle avait vu quand même plutôt juste, hein, Margaret Atwood, enfin plutôt juste, ou en tout cas elle savait les thèmes qu'elle allait développer, et c'est vrai que la série, c'est une grosse claque dans la figure quand même, effectivement, et qui montre que il manquerait pas grand chose pour qu'on bascule de ce côté-là. Et en l'occurrence, dans certains pays, c'est le cas, puisqu'avec Daesh notamment, les femmes aussi ne servent qu'à ça. Et donc, June espère évidemment que le monde extérieur va. Et elle espère un sursaut des pays voisins qui n'arrive pas, parce qu'en plus, il y a même un extrait comme ça, qui est absolument terrifiant, où en fait, il y a une délégation d'un pays pays d'Amérique latine qui vient visiter en fait cette fameuse société, qui vend tous ses bénéfices évidemment, en disant « Ben regardez, on arrive nous à avoir des enfants, pas comme vous ». Cette délégation pose des questions à June en lui disant « Mais voilà, vous êtes heureuse de cette situation ». Et June évidemment est forcée de dire « Mais oui, tout se passe bien, et avant je vivais une vie de pécheresse et maintenant je suis enfin accomplie ». Et elle arrive à avoir un petit moment d'intimité avec le membre de cette délégation en disant « Mais sortez-moi d'ici, c'est horrible, je me fais violer tous les mois, je n'ai plus aucun droit, etc. » Et la personne lui répond « Écoutez, j'ai pas le choix quelque part parce que dans notre pays, on n'a plus de naissance depuis 10 ans. Donc quelque part, on vient de prendre exemple à ce qui se passe ici. » Et donc là, June comprend que malheureusement, la délivrance de l'extérieur ne viendra pas et que ce sera à elle de trouver des solutions pour s'en sortir.
Une chaise. Une table. Une lampe. Une fenêtre avec des rideaux blancs. La vitre est en verre incassable, mais ce n'est pas pour m'empêcher de m'enfuir. Une servante n'irait pas loin. Ils craignent ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant. Ou d'un drap entortillé et d'un lustre. J'essaie de ne pas trop y penser. C'est plus difficile les jours de cérémonie, mais penser peut nuire à nos chances. Mon nom est Defred. J'en avais un autre avant, mais il est devenu interdit. Tant de choses sont interdites maintenant.
On vient d'entendre justement June qui parlait, il y a sa voix off tout le long de la série, qui explique ce qu'il y a dans sa tête, vu qu'elle ne parle jamais de ses problèmes, enfin, sauf à quelques personnes, mais elle ne parle jamais de son état d'esprit.
Et là, on voit un petit peu l'influence, effectivement, du bouquin, quelque part, où on se replonge, effectivement, à l'intérieur de sa tête. Et il y a ces quelques moments un peu narratifs, où on a une plongée dans son esprit. Mais sinon, la plupart du temps, il y a beaucoup de silence. Et effectivement, elle ne peut pas l'exprimer autrement, puisque sinon, évidemment, ça va se retourner contre elle. On l'aura compris, évidemment, avec ces quelques extraits qu'on a connu nettement plus joyeux comme série. Et c'est pas la mise en scène qui viendrait nous apporter un peu de légèreté à l'ensemble, puisque Bruce Miller filme tout dans des couleurs délavées, baignées dans une lumière un peu crue, crasse, jaunasse, surexposée, qui rend la chose un petit peu plus compliquée en plus à voir. Outre le travail sur le son dont on a déjà parlé, il multiplie les gros plans sur les visages des personnages. Il filme notamment souvent en gros plan leur désespoir. On ne laisse aucune perspective à une autre réalité ou un espoir quelconque. C'est encore plus vrai quand June sort dehors, puisque donc lorsqu'elles doivent sortir, elles doivent revêtir leur tenue de servante écarlate, d'où le nom de la série évidemment. C'est une sorte de longue veste pourpre et une coiffe, une sorte de coiffe de bonne sœur quelque part.
Un côté très mormon comme costume.
Oui, c'est ça, exactement. Et chaque fois en plus que June porte sa coiffe, la caméra se rapproche de son visage, se fixe sur son visage, et c'est comme l'horizon n'existait plus. Son monde est complètement restreint au strict minimum, mais finalement, on ressent exactement ce que June ressent aussi. C'est le fait qu'on est plus dans un monde complètement étroit, enfermé, et on ne voit que le monde au travers des yeux de l'actrice. C'est une série d'ailleurs qui est portée à bout de bras. Bon, il y a tout le reste qui est très très bon, mais évidemment, le travail d'actrice d'Elizabeth Moss est à souligner. Elle arrive vraiment à nous transmettre tout le désespoir de son personnage, qui est résigné la plupart du temps, qui est traversée de temps en temps par de brefs moments d'espoir où elle semble prendre conscience finalement qu'elle a du pouvoir, puisqu'elle a, à partir du moment où elle a encore le droit d'enfanter, quelque part c'est elle qui a le pouvoir, mais il faut encore pouvoir l'utiliser au bon moment. C'est ces espoirs qui sont toujours accompagnés, ces petits moments musicaux rock et qui sont toujours massacrés par de durs rappels à la réalité. Et l'actrice d'ailleurs arrive également à parer son héroïne totalement aimable, où il y a plus d'une fois on a envie de la secouer, tellement elle semble amorphe face à cette situation. Évidemment, c'est compliqué parce qu'on se dit bien que elle a pas le choix et que si elle se rebelle, les conséquences seront terribles. Mais c'est aussi vrai lorsqu'on voit ces fameux flashbacks qui expliquent brièvement l'arrivée au pouvoir des fils de Jacob, puisqu'en fait on voit que cette société brime les libertés des unes après les autres et aucun des personnages ne semble réagir. On leur explique qu'elles ont plus le droit de venir travailler, bon, elles reprennent leurs affaires et elle rentre sagement chez elle. Ça les fait un petit peu râler, mais pas de réaction. Tout le monde semble tellement préoccupé par sa propre petite vie qu'il ne manifeste aucun intérêt envers les changements de la société. Ce qui nous ramène évidemment à nous aussi, où on est tous sur nos réseaux sociaux et il suffit d'apprendre les transports en commun actuellement pour voir qu'il n'y a plus aucune interaction entre les gens. Tout le monde est vissé sur son téléphone portable. Moi également, hein, je me jette la pierre évidemment. Les gens ne réagissent qu'au moment où ça leur explose à la figure, quand c'est trop tard finalement. La résistance en plus se met en place trop tardivement et sans réelle organisation, ce qui fait qu'évidemment c'est la porte ouverte à ce que les fils de Jacob ont décidé de mettre en place. C'est une série qui est évidemment intéressante car elle délivre un message éminemment féministe qui trouve un écho très singulier en cette période trouble de hashtag balance ton porc et MeToo, etc. Les femmes y sont dépeintes comme des pécheresses soumises à l'homme. Elles ont pour mission unique d'enfanter et sont à la disposition des besoins sexuels de l'homme. L'homme n'est pas franchement dépeint sous son meilleur jour non plus, puisque notamment au travers du personnage de Fred Waterford, qui au départ semble plutôt agréable finalement, qui est plutôt une hypocrisie crasse, puisqu'il est quand même à la source du projet Gilead. Il prêche la bonne parole, il se donne l'image d'un bon patriarche, respectable, alors qu'il a un penchant très marqué pour le sexe et la luxure, notamment via la visite de bordels, qui sont toujours permis évidemment pour les gens haut placés, dans lesquels on peut faire tout et n'importe quoi avec les femmes qui sont à leur disposition. Voilà, donc on l'aura compris, la série La Servante Écarlate, c'est une grande série qu'il faut absolument voir, ne serait-ce que pour le message, les messages qu'elle délivre. Non, c'est pas une série qu'on aime ou qu'on a du plaisir à regarder, c'était assez éprouvant, le rythme est très très lent aussi. Il y a cette mise en scène qui multiplie beaucoup de ralentis, il y a beaucoup de silence, de moments flottants pour installer cette atmosphère poisseuse, cette héroïne qui semble amorphe. Pas d'humour, évidemment, mais pas une once d'humour, non. Pas une once de plaisir. Il y a des scènes qui sont franchement pénibles à regarder. On a des viols, des tortures, des exécutions, des humiliations au quotidien. Il faut respirer après ça. Franchement, moi, du moment où la série a commencé, j'ai l'impression de rentrer en apnée. Et j'ai commencé à respirer qu'à la fin de la saison, il y a une sorte de mini espoir. Mais, et encore, parce qu'elle le dit, qu'elle ne sait pas si elle part pour un mieux ou pour un bien.
C'est pour donner envie de revenir à la saison 2, en fait.
Oui, très probablement.
Mais de toute façon, je pense qu'on a envie, non ?
On a envie. Et en même temps, c'est impossible de binge-watcher tous les épisodes. Enfin, à chaque fois, j'ai pris quelques jours entre chaque épisode pour pouvoir les assimiler, pour pouvoir me dire j'y retourne. Parce que j'avais la sensation d'étouffer.
Vraiment. Oui, et d'être glacé. Dès le départ, c'est assez glaçant. Il y a le côté sans souffle et il y a le côté glacé.
Clairement. Donc, c'est une série qui prend le parti de déplaire. Ça fait autant sa force que sa faiblesse. Donc, si vous cherchez une série fun, n'allez pas par là. Clairement. Maintenant, si vous voulez voir une série dont le message politique est très, très fort, allez-y, les yeux fermés, non, certainement pas, mais allez-y.
C'est là-dessus qu'on referme ce podcast. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement pour un prochain dossier de Frontières des séries.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web www.afds.tv.